décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 39, salut Manu.
Salut Luc.
Bon, on n'est que tous les deux.
Et oui, en petit comité.
Du coup, on va se lancer directement avec la revue de presse.
6 articles cette semaine.
Une belle sélection, je trouve. Ils sont dans l'ensemble plutôt intéressants.
Et parfois originaux.
Ouais. ZDNet France, c'est qui le patron sur Microsoft Azure Linux? Un article de Steven J. Vaughan.
Alors, c'est un article qui est intéressant parce que ça veut dire que Microsoft, sur ses serveurs informatiques, c'est les serveurs de cloud computing, eh bien, ils avouent aujourd'hui que plus de la moitié de leurs serveurs sont sous Linux et que Linux est leur plateforme préférée aujourd'hui pour déployer des nouveaux clients. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, si même Microsoft se met au logiciel libre...
Le chiffre augmente tout le temps et ça se fait au détriment de Windows Server, hein, donc leur solution maison. Uzbek Erika, les sciences participatives au cœur de la recherche du futur, un article de la rédaction.
Donc toute une discussion sur un festival, le Turfu Festival, T-U-R-F-U.
Qui commence le 2 octobre, hein, donc c'est maintenant.
Voilà, à Caen, donc ça a l'air assez sympa, ils accueillent tout le public, notamment dans des Fab Labs pour faire... Et pour regarder de l'innovation et discuter un peu science.
Alors, c'est un peu plus que du Fab Lab, parce que le Fab Lab, c'est ces espaces où on peut bricoler et apprendre par soi-même. Là, c'est vraiment l'idée de faire de la science. Alors, soit sur des petits niveaux en partageant des informations ou en donnant de la puissance de calcul de son ordinateur, c'est un truc qui se fait depuis longtemps.
Oui, il parle de City at Home.
Voilà, mais après ça, il y a également des réseaux de surveillance, il y a plein d'idées vraiment intéressantes. Et en fonction des compétences que les gens ont, on peut participer plus ou moins. Et avec cette idée de décloisonner la recherche.
La rendre citoyenne, hein, un peu comme le logiciel libre.
Tout à fait. Clubic.com Firefox Monitor vous dit si vos données ont été volées. Un article de Mathieu Legouge.
Donc c'est un nouveau service qui est fourni par Mozilla, grosse association qui est derrière Firefox. Et ce service-là, en quelque sorte, vous permet d'avoir une idée de la sécurité de vos données. Notamment, il y a plein de serveurs sur Internet qui ont été corrompus, qui ont été hackés. Et donc les logins et mots de passe, notamment, ont été perdus dans la nature. Et bien vous pouvez aller sur ce site de Mozilla, mettre votre email et on vous dira si votre email a été volé. Vraisemblablement, et si le login et le mot de passe associés ont été volés et
sont sur de nombreux sites piratés qui ont déclaré le fait qu'ils soient fait pirater.
Oui.
Et on peut s'inscrire.
On peut s'inscrire
ça, si
pour recevoir des
un
alertes.
Site, voilà. ZDNet France, que se passe-t-il si vous essayez de retirer votre code Linux? Un article de Steven J. Vaughan, encore lui.
Et oui, mais un autre sujet qui continue sur ce qu'on présentait la semaine dernière déjà, c'est-à-dire que dans le monde du logiciel libre et notamment dans le développement du noyau Linux, il y a un code de conduite qui est en train d'être mis en place. Linus Torvald, le développeur originel du noyau, a admis qu'il avait eu un comportement un peu inadmissible.
Voilà, on en avait parlé de loin en loin hein, depuis quelques années. Il avait la réputation de vraiment se conduire comme un connard et d'agresser les gens, de les insulter, etc.
Un peu agressif, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et là, bah, comme quoi, il ne faut jamais désespérer de la condition humaine. Et il s'est dit qu'il fallait peut-être s'améliorer.
Voilà. Mais conséquence, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne veut pas de ce code de conduite mais a contribué du code au noyau Linux? Est-ce que cette personne qui ne voudrait plus participer a le droit de retirer son code? Et donc, il y a un article qui discute de cela. La réponse, je vous la donne. Gros spoil. Normalement, non. On ne peut pas retirer du code comme ça.
Normalement. The Conversation, Didier Deschamps ou l'art de capturer la valeur, un article de Bérangère Lorraine Zostak.
Je crois que c'est l'article le plus original qu'on a jamais vu dans la revue de presse.
Ah, il faut voir.
Ah, il est question quand même. Hein.
Ouais.
Parce que ça parle de la Coupe du Monde de foot.
La tasse mondiale. The World Cup, non, la tasse mondiale.
La tasse mondiale et de la possession de balle des Français qui ont gagné la Coupe du Monde mais qui ne possédaient pendant le match, semblerait, hein, que le ballon que pendant 32% de la durée du match, ce qui est peu. Normalement, les gagnants de ce genre de match possèdent le ballon à plus de 50%. Et donc, c'est quoi le rapport avec le logiciel libre?
C'est une sorte d'analogie en disant on peut avoir des systèmes plus intelligents de partage, etc., qui permettent d'être plus efficaces.
Notamment avec le logiciel libre où on partage la connaissance, on partage l'innovation, mais on en retire plus de valeur malgré le fait qu'on n'ait pas la possession.
Alternatives économiques, GAFA, il faut prendre la Bastille numérique. Un article de Sébastien Soriano, enfin qui est d'ailleurs une interview.
Oui.
C'est le président de l'ARCEP.
Donc, soi-disant, le gendarme des télécoms, ceux qui mettent en place les règles et qui contrôlent un peu Internet, quelque part.
Il n'a pas de képi sur la photo.
Non, mais il a le pouvoir, et donc on l'écoute attentivement. Et là, il parle des GAFA. Donc, GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. De temps en temps, on rajoute un M pour parler de Microsoft.
Oui.
Et donc, en gros, ce sont les géants d'Internet, les plus grosses entreprises mondiales qui arrivent à des valeurs de 1 trilliard de dollars. Je crois qu'il y en a deux qui ont dépassé le seuil il y a peu de temps. Donc c'est quelque chose de considérable. Et bien ces entreprises-là, si grosses qu'elles sont, elles nous embêtent. Et elles embêtent le gendarme des télécoms.
Voilà, donc l'article est très orienté économie, c'est quand même alternative économique.
Et institution.
Et institution. Et moi, je le trouve très intéressant, mais très discutable. Il y a plein de choses où on n'est pas d'accord avec lui. Mais le propos reste quand même très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler plus longuement pour ce podcast.
On pourrait voilà. presque entendre ça comme une analyse de ce que la présidente de l'ARCEP voudrait faire, d'ailleurs.
Oui, c'est très politique. C'est ça qui m'a étonné et que je trouvais un peu surprenant. Alors je pense qu'il a dû valider ça et avec... Mounir Majoubi, parce que notamment il le cite. Mais en gros, le point de départ, il est très juste, c'est de dire que, et on en parle suffisamment ici, que les GAFAM maîtrisent énormément de choses et que du coup, leur pouvoir, c'est pas simplement d'avoir 2-3 données et puis de régner sur Internet, c'est qu'il y a des vraies conséquences dans le monde réel. Hein. Ils citent Uber, ils citent les commerces qui ont du mal à survivre face à toute la vente par correspondance d'Amazon, ce genre de choses.
Et le monde économique est en train de changer. On a l'impression que ça bouge en ce moment. Il y a des changements considérables en profondeur.
Ouais. Alors il dit que personne l'a vu venir. Là, c'est un des points où je dis ben non, il y a plein de gens qui l'ont vu venir, mais c'est pas ceux qu'on a bien voulu écouter. Les gens en ont parlé bien en amont et en disant l'informatique va radicalement changer le monde. Et maintenant, ça commence à devenir tellement visible qu'on peut plus faire attention. Et donc, c'est ce côté un petit peu désespérant. Hein.
Alors, on peut supposer quelque part que là, il présente ce qu'il voudrait faire, et notamment son analyse, c'est de dire nous, les institutions, on n'a pas assez agi. Et on n'agit pas assez. Donc on peut entendre quelque part, on doit faire des choses. Et il critique le monde économique en disant qu'au contraire, on a laissé les entreprises à leurs bons moyens et à leur bon vouloir. Et que la conséquence, c'est des entreprises qui sont des monopoles de fait. Des monopoles qui utilisent un effet réseau. Quand plus on est gros dans ce monde informatique, plus on devient gros et on en retire de
et
la valeur économique.
Et plus on devient rentable, oui.
Exactement.
Contrairement au monde matériel où le fait de grossir va... faire toute une série de freins qui fait que devenir encore plus gros et plus efficace va être de plus en plus difficile. Et donc, on est obligé d'investir de plus en plus pour des gains marginaux de plus en plus faibles.
Alors moi, sur ce point-là, je ne suis pas forcément d'accord. Mmh. Je pense que plus on est gros, plus on devient sclérosé par nature et que c'est difficile d'en sortir de cette sclérose.
Oui, mais il y a quand même un côté où, une fois que tu as mis en place tes serveurs, après tu fais grossir le nombre de serveurs que tu as, mais créer 10 comptes ou 1 million...
De ce point de vue-là, certes. Mais
même,
du point de vue du changement des services, alors on a déjà parlé entre nous en dehors, mais... les grosses entreprises, et les GAFA notamment, ont terriblement peur des petits acteurs qui arrivent régulièrement sur les marchés. Parmi leur façon de faire, elles vont voler leurs fonctionnalités et les dupliquer et les réintroduire dans leurs systèmes qui sont plus gros, qui ont plus de clients, ou elles vont racheter les petites entreprises, toutes ces petites startups qui se montent et qui ont de l'espoir et qui ont un futur, et les rachètent, et soit elles les incorporent dans leur propre entreprise, soit elles les étouffent.
Oui, mais d'ailleurs, ça fait partie du business model. Des gens qui font des startups, c'est leur rêve absolu, c'est de se faire racheter par une grosse boîte, en disant... C'est une façon de gagner le jackpot parce qu'on va leur filer un gros paquet de pognon à l'échelle individuelle pour en gros jouer avec ou fermer le machin.
Ce qui arrive assez régulièrement. Ouais. Donc là, il a cette analyse de dire, nous, les politiques, nous, les institutions, on n'a pas agi, on a laissé ce pouvoir partir dans les grosses entreprises. Oui. Et les grosses entreprises, aujourd'hui, elles sont mauvaises pour la société, notamment, elles ne payent pas d'impôts.
Oui.
Et ça a des conséquences lourdes parce que ces impôts-là, ils manquent aujourd'hui.
Ça, c'est un des points où je trouve qu'il est, enfin, on est tous les deux d'accord là-dessus, qu'il a un petit peu de mauvaise foi par rapport à
ce
truc-là. Parce qu'à un moment, il dit oui. En gros, les anarchistes de l'Internet, tout ça, ils voulaient pas de régulation d'étatique et au final, c'est le monopole économique qui s'est mis en place. Ce qui est pas faux. Mais en même temps, quand on pense à l'accord Microsoft Éducation nationale, par exemple...
Et quand on pense aux discussions entre l'Allemagne et la France pour taxer les GAFAM qui ont échoué cet été et qui auraient pourtant pu aboutir à quelque chose de ce qu'on sait, d'intéressant, pour que ces grosses entreprises qui échappent à l'impôt, enfin, elles le payent.
Voilà. Quand Fleur Pellerin s'occupait du numérique il y a quelques années, elle avait fait une sortie sur l'open source, la partie vraiment business, et en disant « ça manque une grosse structure, quelqu'un avec qui on puisse parler, et l'État adore les grosses boîtes. » Et ils ont leur Renault, ils ont leur Veolia et ce genre de choses.
IBM, Microsoft, ce sont des interlocuteurs à la taille d'un État.
Et donc là, je pense que c'est le point majeur où il rate le truc. Alors, il ne peut pas trop taper sur l'État, parce que c'est comme...
C'est
eux qui payent son salaire.
C'est la boîte mère.
Voilà. Mais je pense que du coup, il rate quand même quelque chose d'essentiel. C'est que le système actuel, il ne sait pas gérer un tissu d'acteurs indépendants. Ça me fait repenser à l'autre article qu'on a vu sur la recherche partagée notamment, où on montre que des gens éparpillés partout peuvent collaborer.
Et très bien.
Et ça, dans la culture étatique, c'est pas possible. En France, on a un bien centralisé.
C'est une des caractéristiques de la France. Nous, on aime bien les champions nationaux. On a fabriqué des grosses entreprises de taille internationale alors qu'on n'est pas un gros pays. Mmh. Et comparé à l'Allemagne et l'Italie, par exemple, on a des entreprises énormes. Et donc, on va dans ce sens-là de regrouper les choses pour avoir des interlocuteurs... de taille état, hein, oui. Clairement. Mais ensuite, bah, ça nous échappe.
Mmh. Pour moi, c'est vraiment un des points principaux où, franchement, il est à côté de la plaque. En revanche, cette idée de la régulation, à mon sens, effectivement, c'est nécessaire. On se souvient que Benjamin Bayard, il y a des années de ça, a parlé de Minitel 2.0 et a annoncé toute la dérive des GAFAM. Et il l'a vu venir bien avant. C'est pour ça, quand il dit « Ah oui, les anarchistes d'Internet, tout ça », c'est un petit peu vexant, quoi.
Il y a toujours un retard. Voilà. Hein, il y a un retard considérable à l'allumage. Moi, je rajouterais, c'est que l'État a aussi sa part d'une autre manière, c'est qu'il permet aux grosses entreprises d'avoir des rentes, des systèmes de rentes. Ça s'appelle le brevet logiciel, ça s'appelle le droit d'auteur.
Il n'y a pas de brevet logiciel en Europe.
Il n'y a officiellement pas de brevet logiciel en Europe, mais tu sais très bien qu'il y a plein de brevets logiciels en tout cas, et qu'on utilise ces attaques sur le droit d'auteur et sur les brevets pour casser les jambes des petits et même des concurrents. Bah, on a suivi les procès Apple, Samsung sur les coins arrondis des téléphones portables et les droits du design.
Design des modèles et les machins.
C'est juste atroce, et tout ça, ça vient bien de l'État. Ce sont des règles étatiques qui créent des rentes qui sont
On sait que le brevet, au-delà de la question du logiciel, a été complètement dévoyé dans son objectif. Hein. L'idée initiale du brevet, c'était de forcer les gens à publier leurs secrets de fabrication en échange d'une période de monopole, mais avec bien l'objectif que tout le monde puisse le faire après, et que du coup l'économie se renforce et s'enrichisse en devenant de plus en plus efficace. Alors, ça a été complètement dévoyé, et il y a des grosses boîtes qui mettent beaucoup d'argent pour empêcher que quoi que ce soit bouge, en fait.
On a vu Google qui rachetait LG et qui rachetait donc une boîte de téléphone, mais cette boîte de téléphone n'avait plus d'avenir, mais elle avait un portfolio de brevets qui avait une valeur phénoménale pour se défendre ou attaquer les autres entreprises qui elles-mêmes déployaient plein de brevets qui ne servaient qu'à ça.
Donc lui, qu'est-ce qu'il propose pour faire machine arrière, aller dans le bon sens?
La déconcentration.
Oui, la déconcentration. Alors c'est pas évident parce que y a plein de grosses boîtes. Il y a eu des mesures antitrust aux États-Unis. Ça n'a jamais détruit les boîtes. Hein, je veux dire,
ça les a freinées probablement, oui. Mais c'est difficile à mesurer.
Voilà. Mais IBM n'a pas été dégommé par ces trucs-là.
Ça reste une des grosses entreprises, une des plus grosses entreprises du monde. Hein.
Il y a une question sur les données que je trouve intéressante, puisqu'on donne nos données et qu'il y a beaucoup de ces GAFAM qui ne prospèrent que par rapport à ça. C'est-à-dire que les données qu'on leur file qui leur permettent de faire de l'argent, d'être rentable, etc. et d'avoir du pouvoir.
Il parle de silos. Donc, en quelque sorte, les données qu'on a mises sont engrangées, sont stockées comme des graines seraient stockées dans des silos et elles sont utilisées ensuite par ces entreprises, mais que par ces entreprises, parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité qui permet de les ressortir.
Et donc, si la législation évoluait pour forcer la libre diffusion des données, par exemple, ou que les
sous-licences libres... Tu pourrais sortir ton profil plus facilement de Microsoft.
Ou même à partir du moment où les données ont été données quelque part, elles peuvent être réexploitées par quelqu'un d'autre, donc du coup il n'y a pas de raison que ce soit qu'un seul acteur qui puisse les utiliser. Alors ça pose plein de problèmes, hein, avec notamment les abus qu'il peut y avoir dessus. Il y a une autre piste qui peut être très intéressante, qui les vote qu'à moitié, mais que moi je trouve très intéressante, qui est l'interopérabilité entre les systèmes. Pour faire un raccourci, avec le mail, quel que soit le fournisseur de mail qu'on utilise, on peut quand même échanger des messages. Le mail est interopérable. Or, si on est sur son petit service propriétaire, on échange par, je sais pas moi, le message Facebook ou d'autres machins que nous ne connaissons pas parce qu'on touche pas à ces choses-là, eh ben, on est coincé, on est obligé d'installer le système propriétaire fermé pour pouvoir communiquer avec des gens. Donc, on se retrouve avec X système. Et ça, techniquement, c'est parfaitement contournable. On peut tout à fait faire des systèmes qui communiquent entre eux et on puisse avoir Facebook d'un côté et puis avoir des nouvelles des gens qui seraient sur Twitter, Mastodon, Framasphere et ce genre de choses.
Alors, je te dirais que les petits acteurs qui arrivent sur ces marchés de communication, en général, eux, ils sont interopérables. Ils sont interopérables avec les gros acteurs qui ont plein de clients. Et donc, si tu viens avec un nouveau protocole, avec une nouvelle plateforme, souvent, tu vas essayer de te brancher sur de l'existant. Oui. Par contre, ceux qui sont en place, les gros, les rentiers de ces services-là, eux, ils veulent pas que les petits arrivent et s'installent. Mais par exemple, Twitter, il y avait plein de librairies qui permettaient de suivre les fils de discussion Twitter, et Twitter a bidouillé ses accès pour bloquer certaines de ces librairies, leur casser leur fonctionnement. Donc, ils ont été un peu de mauvaise foi sur ces mécanismes-là. Pas très sympa. Alors, je rajouterais, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, le RGPD favorise la sortie des données et aide, en Europe en tout cas, à ce qu'on puisse extraire nos profils de certains de
ces sites. C'est effectivement le minimum à exiger. Donc, voilà. Donc, l'article est très orienté économie. Il va citer quelques économistes, etc. Et je le trouve intéressant. Il est vraiment à lire avec beaucoup de sens critique parce que je pense qu'il est très politique.
Il est orienté.
Il est très orienté. Et voilà. Mais il y a quand même un fond de réflexion derrière qui est vraiment intéressant et qu'on ne voit pas habituellement. Et certainement pas dans des programmes politiques qui sont très très vagues. Et voilà, là, on a des idées intéressantes. Donc, ils peuvent faire un bon point de départ de discussion.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.